Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
J'ai rencontré Léa Muraviec, l'autrice du Grand Vide, le mardi 17 janvier 2023 au lycée Le Mans Sud avec mes élèves de la Nouvelle Chance, dispositif pour des élèves en abandon scolaire et des élèves de seconde du lycée général et technologique Le Mans Sud dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire organisé par Bernard et Brigitte Martin. Deuxième et dernière partie de la rencontre avec Léa Muraviec. Que raconte le Grand Vide ? Voici la présentation de cette œuvre sur le site des éditions 2024. Mais Manel Naher, c'est moi ? Qui est donc cette autre Manel Naher qui fait la une des journaux ? Elle fait de l'ombre à Manel Naher, la vraie Manel Naher, l'héroïne de cette histoire. Elle ne se rend pas compte qu'elle la met en danger, la vraie Manel Naher, en ayant tout ce succès. Vous comprenez, si tout le monde se met à penser à cette Manel Naher qui devient célèbre, au lieu de penser à Manel Naher qui passe ses journées au fond d'une petite librairie, eh bien, on risque de l'oublier. Notre Manel. Et dans ce monde, si l'on ne pense plus à vous, alors vous mourrez, tout simplement. Penser à quelqu'un, c'est lui donner de la présence. L'horizon ici est barré par des millions de noms qui s'affichent de toutes parts et les mendiants ne quémandent qu'une seconde d'attention. Survivre pour certains, devenir immortel pour d'autres, c'est la présence qui fait tourner cette ville tentaculaire. Manel, elle, tournerait volontiers le dos à tout ça. Mais là-bas, au-delà des gratte-ciels, il n'y a que le grand vide, d'où personne n'est jamais revenu. Les questions ont été majoritairement posées par les élèves, mais vous entendrez ma voix les poser, ceci étant trop éloigné du micro, sauf pour les dernières questions où je fais en sorte que vous entendiez la voix d'une élève de la Nouvelle Chance. Avez-vous voulu dénoncer une société où le paraître est plus important que l'être ?
Alors, je pense que c'est une partie, un aspect de la société, mais ça fait pas tout non plus. En fait, moi, dans mon livre, j'ai gardé que des versions qui m'intéressaient pour l'histoire. Mais dans ma tête, par exemple, les personnes très célèbres, comme les immortels que j'ai inventés, c'est aussi des personnes qui, pour certaines, sont immortelles pour des bonnes intentions. Par exemple, nous, on a retenu de l'histoire aussi des... Il y a des personnes qui sont célèbres aussi pour avoir inventé des vaccins qui sauvent des gens ou qui sont célèbres pour avoir sauvé des vies, etc. Et ça, c'est, on va dire, une bonne notoriété. Mais bon, la société du paraître, je pense qu'elle est... Elle est un peu facilitée par le fait qu'on a accès aux choses vachement facilement à travers les réseaux ou l'image ou Internet et que c'est plus facile peut-être avant que de se faire connaître pour pas grand-chose. Mais après, c'est plutôt à nous de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ça. Qu'est-ce qu'on fait de, de cette accessibilité de la célébrité. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on désire au fond de nous ou est-ce que c'est pas juste... quelque chose qui est présenté comme étant quelque chose de cool, alors qu'en fait, ça va 2 minutes, mais finalement, pas tant que ça.
Est-ce que la célébrité et le pouvoir changent toujours le regard des autres sur soi et sur soi-même ?
Je pense que oui. Je pense que c'est difficile de rester la même personne quand tout le monde nous regarde et quand on a beaucoup de pouvoir, par exemple. Je pense que chaque personne réagit différemment en fonction de notre éducation, comment on a grandi, notre culture aussi, et puis notre résistance personnelle à ça. Mais je pense que c'est facile d'avoir notre vie qui change, en fait, quand on a beaucoup d'attention et qu'on devient célèbre, parce qu'on arrête d'être une personne normale, en fait. Et quand on sort de la normalité, c'est dur d'y revenir souvent. Donc je pense que je pense qu'il faut vraiment être très accroché pour rester normal alors que tout le monde parle de nous, par exemple, ou quand il y a un scandale qui éclate sur toi, par exemple, est-ce que c'est pas dur de juste de faire comme si de rien n'était, en fait? Donc, voilà.
Nous avons remarqué qu'il n'y a plus de livres. Est-ce parce que c'est un monde où il n'y a plus d'arbres?
Ouais, du coup, est-ce que... Enfin, je pense que c'est un monde sans arbres parce qu'il n'y a pas d'arbres dans tout le livre. En fait, j'ai vraiment travaillé l'univers de ma BD visuellement pour qu'il y ait une opposition vraiment radicale entre la ville et la campagne, par exemple. Et donc, j'ai tout accentué. Par exemple, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plantes du tout dans la ville. Et il n'y a pas d'animaux non plus. Il n'y a rien d'autre que des êtres humains et du béton, du ciment. Et de l'autre côté, dans le grand vide, il n'y a pas d'êtres humains, il n'y a pas de construction ou presque. Il n'y a pas grand-chose qui relève de l'être humain. Ça, c'est des choses un peu que j'ai travaillées pour que ça soit vraiment évident, en fait, dans chaque partie, et qu'on se sente vraiment étouffé là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas vraiment de façon de s'échapper. Par exemple, même dans la ville, il n'y a aucun moment où je montre le ciel, sauf sur une double page. Et sinon, le ciel, il n'apparaît jamais. Et c'est aussi pour montrer que la ville, on est un peu enfermé dedans, on est un peu obligé d'être dedans et de vivre dedans, et on ne peut pas trop aller chercher d'autres choses ailleurs. Et puis, il y a cette métaphore du libraire qui meurt. Donc, j'ai fait mourir le personnage du libraire qui tient, du coup, une librairie et qui a un rapport au livre. C'était aussi un peu pour rajouter du drame dans le récit, pour faire peur à mon héroïne, pour lui montrer que le mode de vie qu'on choisit a aussi un coût parfois d'être dans des moments plus difficiles que d'autres, que c'était quand même, enfin, que le libraire, en tout cas, il a eu la vie qu'il souhaitait avoir, qu'il est content d'avoir fait ça, même si c'était difficile. Et donc, je pense, j'ai surtout accentué cette différence avec le fait qu'il n'y ait pas de livre ou pas d'arbre, aussi pour montrer que Manel, elle ne correspond pas du tout à son milieu, en fait. Elle aime lire, mais ça aurait pu être autre chose, en fait. Mais dans ce livre-là, elle aime lire et sa famille comprennent pas trop. Et du coup, elle est un peu tout le temps en opposition avec sa famille parce qu'elle fait des choses qu'elle aime personnellement, mais que personne autour d'elle comprend, à part Ali et le libraire qui sont ses deux seuls amis. Donc c'était aussi une façon de l'isoler et de montrer qu'elle avait des vraies raisons de partir de la vie.
Nous avons beaucoup débattu sur la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce une fin ouverte?
Alors, en fait, c'est parce qu'il y a eu plein de versions de la fin différentes. Comme je l'ai expliqué, j'ai réécrit plusieurs fois l'histoire, et donc à chaque fois que je réécrivais l'histoire, la fin collait plus au contenu de l'histoire, parce que la fin d'un livre, elle termine le récit. Parfois, elle apporte une morale aussi, et donc ça doit avoir un rapport avec le contenu du livre et ça doit lui faire écho. Et donc, j'ai les premières versions de la fin. C'est en fait, Manel, elle restait dans la ville, elle partait pas dans le grand vide et elle décidait de mourir dans la ville. Je trouvais que c'était un peu trop dramatique. Du coup, j'ai changé cette fin. Finalement, je l'ai fait partir pour le grand vide et rencontrer direct des habitants au bord de la ville. Elle les rencontre. Les habitants sont trop sympas. Les habitants du grand vide, ils font des soirées ensemble, ils s'entendent trop bien. Et je me suis dit, non, c'est peut-être pas non plus la bonne fin parce que. Elle a vécu des choses assez difficiles aussi avec ses amis, ses proches, sa famille. Peut-être qu'elle n'a pas envie, après avoir été célèbre et immortelle pendant autant de temps, peut-être qu'elle n'a pas trop envie non plus de rencontrer des gens tout de suite. Et du coup, encore une nouvelle version, c'était finalement, elle ne rencontre pas de village ni d'habitants dans le grand vide. Et je me suis dit, non, quand même, je ne peux pas en avoir parlé sur 200 pages pour ne rien montrer, quoi. Donc finalement, je me suis dit, bon, elle va rencontrer... elle va arriver dans ce village, rencontrer des gens, mais elle va pas savoir quoi faire. Parce que je pense aussi que on se donne des objectifs dans la vie, on a des rêves aussi, et peut-être que vous avez des rêves dans votre vie, des choses que vous avez à tout prix envie de faire. Mais une fois qu'on les fait, en fait, il se passe quoi ? C'est quoi la suite ? Et qu'est-ce que ça fait de réaliser ses rêves, en fait ? Une fois qu'on les a réalisés, c'est quoi le rêve suivant ? Et je me suis dit que Manel, une fois qu'elle aurait enfin réalisé son rêve, après autant d'épreuves et de souffrances et d'efforts, peut-être qu'elle ne saurait juste pas quoi faire à ce moment-là parce qu'elle serait trop surprise d'avoir réalisé son rêve et elle ne saurait pas quoi en faire. Donc voilà, je me suis dit que Peut-être qu'elle n'était pas encore prête à rentrer dans ce village, mais peut-être plus tard. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et moi, ce que j'aime bien dans les fins ouvertes, c'est que justement, on peut en débattre et que du coup, personne n'est d'accord. Et donc, ça fait qu'on discute de tout ça et qu'on sort du livre, en fait, de la fiction et qu'on se met à en parler dans la vraie vie et on donne chacun et chacune notre avis sur un sujet, quoi. Je trouve ça assez chouette.
D'autres questions ont été posées sur ses études, son parcours d'autrice de BD, les techniques que Léa Muraviec emploie. Et alors que les dernières questions semblaient avoir été posées, une élève de la Nouvelle Chance a pris la parole.
Personnellement, quand j'ai lu votre livre, le personnage principal, je me retrouvais dans ce personnage. Donc, et la question qui m'était venue, une fois que je l'ai lu, est-ce que vous vous retrouvez dans le personnage de base? Est-ce que c'est un peu ça tient de votre identité, en fait, entre guillemets? Est-ce que vous êtes reflété à travers cette vie?
Bah, c'est une bonne question, en plus on n'en a pas parlé, donc c'est bien. Mais en fait, Manel, c'est pas moi, mais c'est moi aussi. En fait, je pense qu'on ne peut pas écrire sans être la personne qui écrit. Et donc, quand on imagine des choses, des scènes, et qu'on imagine des histoires, on l'imagine à partir de soi. Et je ne pense pas qu'on puisse être complètement détaché de ces personnages. Les personnages de fiction, plus on y met de soi des choses vécues, de l'intime, et plus ça a de chances de vous toucher, parce que c'est peut-être des choses que vous avez déjà ressenties personnellement. Et donc, je pense que c'est important de mettre des émotions qui sont des vraies émotions, que moi j'ai pu ressentir à certains moments, parce que sinon ça aurait l'air trop artificiel. Par exemple, une des choses assez difficiles à faire quand j'ai écrit mon livre et mes personnages, c'était d'arriver à en faire une héroïne qui soit pas complètement lisse et pas forcément parfaite. Et ça, en fait, comme moi, je m'identifiais beaucoup à la base à Manel, j'avais pas envie qu'on la trouve méchante ou antipathique ou colérique ou qu'on pense du mal d'elle, parce que j'aurais eu l'impression qu'on pense du mal de moi. Et après, je me suis dit, mais en fait, moi, les livres où le personnage est parfait, et je m'ennuie à mort. Donc là, j'ai envie de voir aussi une héroïne qui fait des erreurs, qui se trompe, qui est humaine, en fait, qui a des défauts comme tout le monde, et aussi des qualités. Mais j'avais envie de voir pourquoi est-ce qu'on est amené dans la vie à faire des erreurs. Donc Manel, elle fait des erreurs qui peut-être que je les aurais faites aussi, en fait. J'ai essayé de me poser sincèrement la question de qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et je pense qu'en faisant ça, peut-être que j'ai réussi à raconter quelque chose qui te parle, en tout cas personnellement. Mais moi, je ne fais pas de récit autobiographique, je fais que me planquer derrière des personnages de fiction. Et aussi, en fait, quand on écrit des personnages de fiction, qu'on crée des personnages, il y a un phénomène un peu bizarre qui se passe parfois, c'est que le personnage, il commence à parler tout seul, et il commence à nous parler, à nous raconter des trucs. Et en fait, souvent, c'est un moment où, en fait, le personnage, il commence à exister, en fait. Et il a sa personnalité propre, et il agit un peu comme... comme une genre notre super pote qu'on connaît par cœur. On sait exactement comment elle va réagir dans telle situation ou ce qu'elle va dire. On sait ses goûts, on sait ce qui va lui plaire. C'est pareil pour des personnages qu'on invente, en fait. C'est des personnages qui ont des caractères qui pourraient exister dans la vraie vie. Et plus on les connaît et plus on sait comment ils réagissent. Et du coup, on sait quoi leur faire et vivre pour que ce soit intéressant, pour les voir faire des choses qui nous intéressent et qui vont dans le sens de l'histoire qu'on a envie de raconter. Voilà, ça c'est tout ce qui se passe autour de la création des personnages et qui fait qu'il se passe des choses étranges parfois. Bah, merci pour vos questions, c'était super bien. Ouais, c'est plein de questions auxquelles qu'on me pose jamais. Ouais, donc c'était trop bien. Ouais.
Nous on a été remués, hein, donc vraiment, donc on a essayé de comprendre ce qu'on comprenait pas aussi, et ce qu'on. Et puis je crois que ça nous a parlé. Personnellement, voilà. Ça nous a parlé personnellement dans les situations qu'on vit, voilà. Et puis par rapport au monde, la relation aux autres aussi, des choses comme ça. Puis on a beaucoup aimé le dessin aussi, on a trouvé bouleversant par moments.
En fait, que ce soit le dessin ou l'écriture, tout a été bouleversant.
Waouh!
Je disais pas trop. J'ai ouvert, alors les deux, trois premières pages, je me suis dit, bon, moi, c'est une BD normale. Et bam, d'un coup, on rentre dans une vraie histoire. Du coup, je fais...
Ouais.
Et du coup, je me disais, et en fait, au fur et à mesure de... Enfin, plus on avançait dans l'histoire, plus on se sentait touché, que ce soit sur les dessins, mmh. ou l'écriture, ou la façon de penser. Il y a un moment, en fait, pour nous, c'était nous le personnage principal. Mmh. Enfin, pour moi, c'était ça. En fait.
Ouais.
Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un truc de mal, j'étais là, mais on m'a fait ça, alors que c'est pas moi.
Ouais.
Du coup, ouais, non, l'histoire, elle a été autant bouleversante, elle a été fantastique et super émouvante.
Ouais.
Sur les sentiments, en fait, qu'on ressent
tout. Ouais.
Alors que c'est pas un film, c'est un livre.
Ouais, oui.
Et personnellement, j'ai pas l'habitude, c'est une BD, pardon. Et pourtant, j'ai pas l'habitude de lire, donc ça m'a bouleversée.
Ouais, wow. Trop bien, ça me touche trop, merci.
Ce soir-là, je suis rentrée chez moi heureuse, avec le sentiment d'avoir réussi mon rêve d'école, comme si la dystopie de Léa Muraviec m'avait permis d'atteindre mon utopie, celle de Victor Hugo. Savoir étant sublime, apprendre sera doux. C'était la deuxième et la dernière partie de la rencontre avec Léa Muraviec et mes élèves de la Nouvelle Chance dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire.